Ça jase à Lyon avec Alexis André.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon. Je reçois ce matin François Devaux, le président de l'association La Parole Libérée. François Devaux, bonjour.
Bonjour.
C'est une omerta qui se brise avec vous et d'autres personnes ayant participé au camp scout de la paroisse de Sainte-Foy-lès-Lyon entre 1970 et 1991. Vous êtes tous victimes présumées d'attouchements de la part du prêtre de l'époque. Aujourd'hui, vous vous réunissez en association. Quel est son but ?
Le but premier et initial de cette association, c'est d'abord, comme son nom l'indique, de libérer la parole. C'est-à-dire qu'on touche à un sujet qui est tabou, d'abord parce qu'on parle de pédophilie, et la pédophilie, par défaut, c'est tabou, et ensuite, dans un cadre qui est celui de la foi et de la religion. Il est nécessaire, pour prendre les bonnes décisions, d'avoir une bonne analyse, et pour faire une bonne analyse, il faut faire un bon constat.
Sur votre site internet, vous êtes plusieurs à raconter votre vérité, ce que vous avez subi étant plus jeune, en épargnant aucun détail. Ça a été difficile de se livrer publiquement de la sorte.
Chacun réagit très différemment. Ceux qui sont à l'initiative de cette démarche, moi, Alexandre, Bertrand et d'autres, on a eu la chance d'avoir su recréer un équilibre avec nos parents, avec notre famille directe, nos femmes, nos enfants, notre travail, notre emploi. Et c'est ce qui nous a permis de retrouver cet équilibre pour porter ça. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Il y a des gens qui sont plus touchés, pour qui c'est plus dur, qui ont dû subir le déni de leurs parents. Souvent, la souffrance prend sa source, plus encore que dans les exactions subies, dans le déni de leurs parents. Et ça, c'est des gens qui ont eu 30 années, parfois, de souffrance.
À l'époque, lorsque vous aviez dénoncé les attouchements du père Prénat, quelle avait été la réaction à la fois de vos parents et celle de l'Église ?
Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont tout de suite écouté, qui m'ont tout de suite compris et qui ont tout de suite agi et qui n'ont pas un seul instant mis en doute ce que je pouvais dire. Donc moi, j'en ai, de ce fait-là, très peu souffert. Je m'en suis jamais caché et je me suis construit avec ça. Donc aujourd'hui, je suis complètement libre et je peux en parler assez aisément. Après, concernant la réaction de l'Église, ça a été long. Ils ont dû mener un combat de plus de 10 mois pour arriver à leur fin. J'avais demandé qu'on ne porte pas plainte parce que je voulais pas de me retrouver devant la justice. Mes parents m'avaient dit soit on le met en prison, soit on le fait écarter des enfants. Enfin, en tout cas, il faut le faire écarter de tout contact d'enfants. Et j'avais pris la mesure de la chose avec leur explication. Et donc, ils sont partis avec cette contrainte-là. Et ils ont donc commencé à contacter le supérieur de Prénat. Puis ils ont rencontré Prénat en même temps. Voilà, au bout de 10 mois, tout ça n'avance pas. Mes parents ont appris qu'un camp se profilait fin février. Ils ont réagi immédiatement et ils ont fait un courrier recommandé qu'ils ont envoyé au cardinal de Courtrai leur lui demandant instamment d'enlever toute responsabilité de Prénat auprès d'enfants, et ce de manière définitive. Donc ils ont reçu une réponse écrite de Courtrai qui dit dedans qu'il prend la mesure des choses et qu'il réagit instamment. Voilà, il parle du risque de suicide, il dit que le père est une victime lui aussi qui va tenter de libérer, enfin bref. Donc ça, c'était... Mes parents ont envoyé ce courrier le 14 février 91. De Courtrai a répondu le 18 février 91. Et ils ont reçu, dans leur boîte aux lettres, un courrier signé du père Prénat en date du 21 février 91, dans lequel, il y a une forme d'aveu. Il reconnaît les faits, il reconnaît qu'il s'est mal comporté. Il jure qu'il ne s'est rien passé avec les enfants depuis septembre dernier. Des écrits qui sont affligeants, qui aujourd'hui nous permettent de poser ça comme étant factuel, d'enlever tout doute, qui nous ferait perdre du temps sur l'action à mener par rapport à ça, quoi.
Le père Prénat, malgré ses aveux, a continué à exercer comme prêtre.
Ouais, nous, en fait, on a constaté à la suite de ce courrier, il a été retiré dans la semaine, comme De Courtrai s'était engagé. Tout le quartier, tout le monde a pu constater que Prénat, qui avait créé un petit royaume à Sainte-Foy, était parti du jour au lendemain, à peine le temps de prendre ses affaires. Et donc tout le monde s'est dit, ça y est, c'est fini. Et il était parti aux petites serres des pauvres. Donc le diocèse avait pris la mesure des choses. On avait affaire à des gens responsables, on l'avait cru. On n'avait aucune raison de mettre en doute cette parole-là. Donc on a tous repris nos vies sereins en disant que ça y est, cette affaire était réglée. Puis s'en est resté là jusqu'à il y a un peu plus de 2 mois où mes parents m'appellent en disant, il y a un enquêteur judiciaire qui sort de la maison, on enquête sur Prénat pour un fait d'agression sexuelle sur mineur. Bon. Et là, j'ai l'enquêteur qui m'appelle, on prend date, et je lui dis, bah, écoutez, moi j'ai autre chose à faire que d'aller brasser un truc, vieux de 25 ans, moi j'ai une entreprise, j'ai trois petites filles magnifiques, j'ai pas le temps pour ces choses-là. Faudra me dire ce qu'il fait, ce monsieur Prénat. Et le soir, par hasard, comme ça, je googlise pour la première fois de ma vie Prénat. Et là, je tombe sur plusieurs articles, voyant qu'il était doyen encore fin août dernier, doyen de Rouen. Il a été nommé là-bas par Barbarin lui-même en 2013, responsable de 15 lieux de culte, et qui donnait des cours de catéchisme à des petits-enfants. Tous ces articles-là sont sur notre site internet www.veritegroupesaintluc.fr. Voilà, moi, quand j'ai appris ça, je vous le dis franchement, hein, j'en ai pas dormi la nuit. Je suis parti le matin en voiture. Je tremblais dans ma voiture.
Oui, et vous craignez qu'il ait pu faire d'autres victimes dans la Loire. Il est aussi revenu dans le Rhône, hein, il était à Cour-la-Ville.
Bah, si vous voulez, moi, quand je sais ce que j'ai vécu avec cet homme-là, quand je vois le travers et le vice de cet homme-là, le risque depuis 25 ans, donc il a été retiré a priori que 6 mois, il a été replacé par De Courtrai lui-même. Quand je vois le risque potentiel depuis 25 ans de mettre un homme comme ça au contact des enfants, parce qu'il est toujours resté au contact des enfants, je dis que c'est complètement inconscient, qu'on ne peut pas laisser faire ces choses-là et qu'il faut absolument réagir et qu'il faut que tout le monde prenne la mesure de cette irresponsabilité. Si vous voulez, il y a le fait d'un homme malade qui est un boulet de la société comme on en a malheureusement pas certains, et que la société sait les gérer. Ça, c'est un fait. Le vrai problème de cette histoire, deuxième problème en tout cas de cette histoire, c'est le phénomène de conspiration. C'est-à-dire que le diocèse de Lyon a été mis au courant depuis déjà 1980, ensuite par mes parents en 91, ensuite en 2011, le 24 juin 2011, par Madame Régine Maire, membre du diocèse de Lyon, qui a appelé une des victimes, Laurent, qui témoigne sur notre site internet, pour lui proposer une rencontre avec Monseigneur Braque de la Perrière. Vraisemblablement, beaucoup de gens dans le diocèse, donc on parle déjà de Régine Maire, de l'évêque auxiliaire qui était au courant. Et puis après, il y a sur notre site internet aussi des échanges de mails. Les plus anciens datent de mémoire, je crois que c'est juillet 2014, notamment avec Pierre Durieux.
Directeur de cabinet de Philippe Barbarin.
Directeur de cabinet de Philippe Barbarin. Et puis également des mails aussi avec Philippe Barbarin. Donc c'est très inquiétant.
Qu'est-ce que vous réclamez au diocèse de Lyon aujourd'hui? Un mea culpa, une action forte, une simple rencontre, un dialogue?
Là, si vous voulez, au vu du communiqué qui est paru sur le site de lyoncatholique.fr, qui a été réalisé, je crois, par Pierre Durieux, vu ce qui est dit dedans, là, on réclame plus rien, en fait, hein, du diocèse de Lyon. Là, il faut passer au cran du dessus. Je crois qu'il faut que le Vatican lui-même, parce que c'est lui le supérieur du diocèse de Lyon, oui. Je crois qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui se déplace, qui prenne le relais, parce que ces gens-là, visiblement, sont d'une irresponsabilité et d'une incompétence gravissime. On parle quand même de phénomènes d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, des gamins qui vont entre 8 et 11 ans. On est bien loin des dérapages qu'a pu faire un prêtre récemment au sujet du Bataclan. C'est largement plus grave. Donc on demande une réactivité sur ce genre de fait-là, quand on prend la mesure des choses, beaucoup plus rapide que ça. Dans son communiqué, il le dit lui-même, hein, donc apparemment, le cardinal Barbarin, quant à lui, a reçu les premiers témoignages au sujet de ce prêtre à l'été 2014. Donc ça voudrait dire que Braque de la Perrière n'a pas remonté l'information auprès du cardinal Barbarin. Donc premier dysfonctionnement qui est gravissime. Il a donc demandé que soit conduite une enquête avant de prendre l'avis de la Congrégation pour la doctrine de la foi, ce qui en soit une bonne chose. Dommage que ça arrive si tard, après tous les avertissements qu'ils ont reçus. Et c'est à l'issue de cette enquête et de cet avis, et quoique les faits reprochés soient anciens, qu'il a décidé de lui retirer toute forme de ministère au 18 mai 2015. Donc nous, on sait, et il y a des articles de presse, et ils sont notamment sur le site internet, que oui, le père Prénat a été retiré fin août 2015. Donc entre le 18 mai 2015 et fin août 2015, le diocèse de Lyon est en train de nous expliquer qu'ils ont laissé un homme qui savait, suite à une enquête faite en interne, qui savait que cet homme-là avait un risque pédophile. Ça va pas bien, faut changer de métier, faut faire autre chose là. Vous n'avez pas les épaules assez larges pour être au poste que vous occupez. C'est trop dangereux. Donc là, il faut poser les stylos, il faut arrêter et maintenant il faut qu'il y ait quelqu'un du Vatican qui vienne lui-même gérer cette affaire en interne et renommer des gens compétents parce que on touche des sujets qui sont trop graves et trop sensibles dans notre nation qui a des valeurs beaucoup plus profondes, morales et nobles que celle de ces hommes.
Vous en appelez au Vatican, est-ce que ça veut dire que votre initiative La Parole Libérée, vous souhaitez la garder locale ou est-ce que vous envisagez quelque chose de national, de continental, puisqu'on le voit, c'est un problème qui est universel?
Ouais, je crois que le phénomène de tabou, il est pas national. Je crois que la prise de conscience nécessaire, elle est pas nationale. Je crois que il y a une profonde remise en question, qui est d'ailleurs initiée par le pape François. Mmh. Et cette demande, elle est faite elle-même par le pape François. Il y a des lois canoniques hein, qui existent. Et le pape François est d'ailleurs d'un courage, on peut le voir dans ses dernières actions. Il continue une action qui a été menée par Ratzinger, initiée elle-même par Jean-Paul II. Quand le chef décide des choses et met en place des lois, il faut que les soldats les appliquent. Et c'est visiblement pas le cas. Donc on verra ce que la justice décidera et ce qu'elle pourra faire appliquer comme loi au vu de ses manquements. Oui. Mais dans l'immédiat, je crois qu'il faut vite qu'il y ait quelqu'un de compétent qui vienne d'en haut pour temporiser un peu les choses.
Et puis François Devaux, dernière question. Vous l'avez dit, votre site sert aussi à des victimes potentielles de libérer leurs paroles. Vous avez eu le courage de le faire à une époque, même si le père en question était quelqu'un de très charismatique, était aimé de tous. Ça a dû être compliqué. Si d'autres personnes ont été dans ce cas-là, quel conseil vous auriez à leur donner?
Ça passe bien par la communication. On le sait tous, la communication passe par la parole et l'écoute. Donc on a mis en place un téléphone ou pour l'instant qui est dans mes mains, où les gens peuvent me joindre, soit par téléphone, soit par mail. Il faut accepter que ces gens-là ont besoin d'un peu de temps. Plus le déni est profond, soit le leur, soit celui de leurs proches, celui de leurs parents, plus il faut leur laisser du temps pour venir à ça. Donc nous, on propose voilà, un premier contact, de les diriger sur un soutien psychologique dans un premier temps,
ouais.
Et puis éventuellement un soutien juridique s'ils souhaitent le faire. Donc on est en contact avec les enquêteurs de justice qui sont très compétents, qui font très bien leur travail et on est en relation très proche. Et je crois qu'on peut avoir toute confiance. Simplement, c'est une démarche compliquée pour une victime que d'aller témoigner, être entendu par la justice. On propose même aussi un chemin pour ceux qui le souhaitent, une démarche canonique. Parce que comme je vous l'ai dit, le Vatican, c'est un État qui a des lois. Le diocèse de Lyon a, au sein de son organisation, un tribunal ecclésiastique. Donc un tribunal ecclésiastique, s'il y a un juge ecclésiastique, il y a des avocats, il y a une défense, il y a une attaque, il y a des témoins, il y a des victimes. C'est comme dans le civil, donc ça commence par une enquête préliminaire et si elle est suffisamment solide, eh ben, on passe devant le tribunal ecclésiastique. C'est d'ailleurs très étonnant que celui-ci n'ait jamais été saisi avant, par exemple, de le nommer comme doyen. Ça aurait été un minimum. Peut-être qu'ils ont pris les dispositions nécessaires, hein, je sais pas, mais ce serait intéressant qu'ils nous disent voilà, qu'est-ce qui a été décidé lors de ce tribunal ecclésiastique avant de nommer quelqu'un en tant que doyen. Dans le diocèse de Lyon, il faut pas se leurrer, il y a des archives qui sont colossales. Ils ont moyen, quand ils font ce nommer doyen, c'est quand même pas rien comme évolution. Voilà encore une preuve d'irresponsabilité. Ça voudrait dire qu'ils sont pas allés fouiller dans les archives qu'ils ont au sujet de ce père prénat. Il y a bien quelqu'un qui a donné à l'enquêteur judiciaire mon nom. Mmh. Parce qu'à la base, il y avait quatre plaintes pour lesquelles il n'y avait pas prescription. Et puis l'enquêteur, il ne pouvait plus avancer. Et puis un jour, il a trouvé mon nom. Alors qui lui a donné mon nom? Parce que moi, je ne les connais pas. Ceux qui ont posé les quatre premières plaintes, je ne les connaissais pas il y a 4 semaines. Donc il y a bien quelqu'un qui a donné mon nom. Sur quelle base? Voilà, je pose la question.
Merci François Devaux. Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com.
Merci beaucoup.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lyonmag.com.